entendant ce témoignage de Mojtaba en Iran, qui a connu la prison, et pour qui la prison finalement a été un moyen de... une période de formation, mais une période de formation aussi pour permettre à d'autres de connaître le Seigneur et à leur tour de pouvoir devenir des formateurs pour les autres et ainsi de suite. On ne connaîtra pas toujours toute l'histoire de ces personnes qui un jour seront même tombées dans l'oubli pour certains, parce qu'on ne sait même pas où ils sont, mais le Seigneur est avec eux. Ça, c'est une certitude qui reste. Revenons maintenant aux Écritures. Donc on est dans l'Église primitive, les toutes premières semaines de l'Église. Les premiers chrétiens forment une petite minorité. Leur chef, Jésus, a été crucifié quelques semaines ou quelques mois auparavant. Et un jour, merci. Donc un jour, alors que les apôtres Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière, ils guérissent miraculeusement un malade boiteux. Un malade qui était là depuis un temps certain. Et ils se mettent à prêcher Jésus-Christ, celui qui vient d'être crucifié, devant les Israélites présents au temple ce jour-là. Et à cause de cela, à cause du prêche, mais également quelque part à cause du miracle qui a été fait de façon un peu impromptue, ils sont arrêtés et jugés immédiatement, ce qu'on appellerait en France en comparution immédiate, par les responsables religieux. Et ce texte, dans Actes chapitre 4, nous le voyons, et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent alors: jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir à vous plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ne pas parler, c'est pas possible. Alors oui, nous chrétiens, nous sommes appelés à vivre notre foi ouvertement, malgré les attentes, malgré les opinions de ceux qui nous entourent, parce que c'est notre vocation. Et les difficultés apparaîtront un jour ou l'autre. Lorsque l'Église devient visible, comme cela a été le cas à travers les siècles, et lorsque cette Église prend position publiquement, et c'est alors que la persécution surgit. Et le récit de la toute première persécution contre les chrétiens, dans le livre des Actes, nous en parle. Donc, au début, tout se passe dans la paix et l'harmonie. Ils ne dérangent pas, ils sont entre eux. Ils restent chez eux, dans leur maison. Le texte nous dit, ils étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vivaient pleinement leur foi, mais ils restaient au sein de leur communauté. Autrement dit, tant que notre foi reste privée et ne choque pas, cela ne pose globalement pas de problème. Alors, qu'est-ce qui provoque la persécution? Dans Acte 3, nous pouvons voir que les disciples manifestent leur foi dans un lieu hautement sensible, le temple. Là, ils ne sont plus dans leur communauté. Ils ne sont plus invisibles. Ils deviennent vraiment visibles aux yeux de tous. Et à ce moment précis, la foi chrétienne éclaire ceux qui étaient encore dans les ténèbres. Donc, cela amène plusieurs conséquences. La première, dans le contexte de l'époque, c'est que les apôtres touchent au statu quo religieux. Ils guérissent miraculeusement quelqu'un qui était là tous les jours à la porte du temple. Il faisait quoi ? Il mendiait. Et là, lorsqu'il tend la main, c'est pas une pièce que Pierre et Jean vont leur donner. C'est le moyen de subvenir lui-même à ses besoins en retrouvant une vie normale, si tant est qu'il l'ait eu avant. S'il était boiteux de naissance, il l'avait jamais eu. Et c'est le miracle. Et là, ça vaut toutes les pièces du monde. Deuxième conséquence, il dérange la paix sociale. Parce que quand le malade est guéri, ça amène d'autres personnes, les personnes s'attroupent. Et ça déclenche aussi une prédication spontanée de Pierre. Rendez compte, l'homme guéri se met à danser dans le temple. Sacrilège pour les Juifs. Et puis, les apôtres vont plus loin. Ils accusent les Juifs publiquement d'avoir crucifié Jésus. Vous avez fait mourir le prince de la vie. Et en plus, ils annoncent la résurrection de Jésus. Autant de vérités qui dérangent, qui sont insupportables pour les gardiens de la tradition qui étaient les responsables religieux de l'époque. Donc, inévitablement, Pierre et Jean sont arrêtés. Donc, ils dérangent l'ordre public. L'Église, de nos jours aussi, est souvent persécutée par les dictatures. Parce que les dictatures ne peuvent pas supporter que l'ordre qui est érigé et suffisamment strict soit mis en péril par des individus qui vont troubler cet ordre. Et en plus, dans ce cadre-là, si les personnes n'obéissent pas, ne répondent pas aux injonctions du pouvoir, ça va créer bien sûr des conséquences encore plus graves, surtout si en troublant l'ordre public, ils arrivent à convaincre et à faire des disciples. Cet homme que vous voyez maintenant, c'est un pasteur qui a troublé l'ordre public, pasteur Wang Yi, donc qui est chinois, qui a été emprisonné en 2018. Et donc, je vous invite à écouter un petit témoignage. Lucie ?
La Bible nous dit de respecter les autorités, mais elle ne nous dit pas d'aller à l'encontre de notre conscience ou du message de l'Évangile. L'Église utilise donc des moyens pacifiques pour manifester sa foi et répandre l'Évangile. En tant que pasteur, ma désobéissance fait partie du mandat de l'Évangile. Le grand ordre de mission du Christ exige de nous une grande désobéissance. Le but de la désobéissance n'est pas de changer le monde, mais de témoigner d'un autre monde.
Suite à ces paroles, donc, le pasteur Wang Yi a été incarcéré. Son épouse aussi l'a été. Il a été depuis libéré, mais le pasteur est toujours en prison. Et depuis quelques mois, avec le temps, de nombreuses églises, sinon toutes maintenant à ce jour, ont été obligées en Chine d'installer des caméras de surveillance qui permettent au pouvoir de savoir qui vient, qui part, qui reste et comment il se comporte. Voilà. Imaginez que là, dans le coin, une, deux, trois caméras qui vous surveillent quand vous venez au culte. Tout le temps. Savoir que tout le monde épie vos gestes et la façon dont vous louez le Seigneur, avec bien sûr des conséquences potentielles. Et puis maintenant, avec tous les logiciels de reconnaissance faciale, vous pouvez être suivi partout où il y a des caméras, à partir du moment où à un moment vous êtes capté. C'est ce que vivent les chrétiens chinois, entre autres. Et le pouvoir essaye parfois de choisir ses prédicateurs pour que les prêches soient, on va dire, plus diluées, moins incisives, et surtout pas contre le pouvoir. Et ceux qui dérangent, ceux qui n'obéissent pas, se retrouvent à la casse-prison. Alors le gouvernement veut créer un christianisme qui est en fait adapté à la culture. Or, le Christ nous demande de sortir du monde et non pas d'être dilué dans le monde, même si nous sommes dans le monde, mais pas dilué. Et la conséquence, c'est que la plupart maintenant des chrétiens ne se réunissent plus dans ces églises, quand elles ne sont pas démolies d'ailleurs. Ils vont se réunir comme le faisaient les premiers chrétiens dans les églises de maison. Là où ils peuvent encore avoir une sécurité, pouvoir louer Dieu à leur aise. Ce qu'on appelle les églises clandestines. Ceux qui n'empêchent pas, ceux qui sont quand même connus, reconnus d'être harcelés, d'être convoqués, emprisonnés ou de disparaître. Et ce pasteur là, que Wang Yi, donc il a été condamné à 15 années de prison pour trouble à l'ordre public, notamment par rapport à ce petit extrait du prêche que nous avons entendu tout à l'heure. Donc les sources de l'opposition. Alors, les chrétiens dérangent l'ordre religieux. Si on revient au passage d'Actes 4, qui avait donné à Pierre le droit de prêcher dans le temple et d'annoncer le salut en Jésus? Personne. Certainement pas les dirigeants religieux. En fait, s'il y avait quelqu'un, c'était Jésus lui-même qui a inspiré Pierre de le faire à ce moment-là. Alors quand l'Église grandit, elle dérange. Et puis, quand on met en avant que Jésus est le Fils de Dieu, alors là, ça dérange encore plus. En particulier, les religions qui ne peuvent pas, dans leur ADN, reconnaître que Dieu peut avoir un Fils. Bon, c'est le cas des musulmans. Et ça peut être aussi d'autres religions. Maintenant, on voit qu'il y a des extrémistes hindouistes, des extrémistes bouddhistes. Allons maintenant en Iran. Et Ruth, si tu veux bien lire.
L'Iran est une république islamique où les chrétiens n'ont pas le droit de prêcher publiquement. Il est interdit aux musulmans de changer de religion. Mais le pasteur Mehdi Dibadj préférait obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Secrètement, il évangélisait les musulmans et beaucoup d'entre eux ont accepté Christ. Dans les années 90, Mehdi et deux autres responsables chrétiens iraniens ont été emprisonnés pour avoir prêché aux Iraniens musulmans. La vie en prison du pasteur Dibadj était dure. Un jour, les autorités l'ont isolé des autres prisonniers et l'ont placé dans une cage mesurant 1 mètre carré. Pendant plusieurs semaines, il a été comme un animal en cage. Pourtant, il ne s'est jamais plaint à Dieu. Il n'a jamais remis en question la volonté de Dieu pour sa vie. Après 9 ans et demi de prison, il a finalement été libéré et a retrouvé sa famille. Les fondamentalistes musulmans étaient mécontents de cette libération. Quelques mois plus tard, le corps du pasteur Dibadj a été découvert, poignardé. Mais il avait dit, « Je préfère être en prison et être proche de Dieu plutôt que de vivre dans un château sans Dieu. »
Il faut savoir que la persécution, ce sont des histoires qui ne se terminent pas toujours bien. Et le simple fait d'être libéré de prison ne signifie pas que la persécution va s'arrêter la plupart du temps. Puisqu'il y a des gens du dehors, ceux d'ailleurs qui parfois ont mis ces gens en prison, qui veulent continuer à persécuter. Alors, on ne connaît pas toujours la volonté de Dieu. Et la seule chose, c'est qu'il nous faut être prêts à l'accepter. Quelle qu'elle soit. Troisième source d'opposition pour ceux qui marchent dans les pas du Christ, dans les pas de Pierre, dans les pas de Jean aussi, et de tous ceux qui font profession de foi en tant que disciples du Christ. Ils contredisent l'ordre idéologique. Les Sadducéens étaient un des courants religieux de l'époque donc du Christ, et ils ne croyaient pas à la vie après la mort. Et ce sont eux en particulier qui se sont opposés le plus au message de l'Évangile à cause de la résurrection. Et comme d'ailleurs dans notre monde sécularisé où beaucoup croient simplement que seule la vie ici-bas compte, la vision est à court terme. Ici, c'était des matérialistes juifs. Et les disciples, malgré tout, continuent de prêcher la résurrection, la vie après la mort. Parce qu'il y a plus que cette vie. Nous en sommes également témoins. Et donc ces Sadducéens ne supportaient pas, ne pouvaient pas accepter comme les juifs, comme les musulmans à diverses époques, quelque chose qui remettait en cause leur religion, leur confort aussi. Et de nos jours, même dans les pays communistes, même si le communisme, le bloc communiste s'est effondré, on en a encore hier pour les 30 ans de l'effondrement du mur de Berlin, pu se remémorer ces histoires pour ceux qui étaient là il y a 30 ans. Mais l'idéologie communiste existe toujours. Il y a des pays encore dans le monde, par exemple le Vietnam, c'est pas toujours, qui est communiste et qui persécute les chrétiens parce qu'au nom de l'idéologie communiste. Et donc ce christianisme est toujours mal vu. Bon, Pierre et Jean sont donc devant le tribunal. Peut-être même le même tribunal devant lequel a comparu Jésus avant sa crucifixion. Sans doute ont-ils dû être impressionnés. Est-ce que eux aussi allaient-ils être crucifiés comme Jésus l'a été? Gardons toujours en mémoire que l'Église est persécutée parce qu'elle suit les pas, elle marche dans les pas de son maître, Christ. Et donc cela nous emmène dans le même conflit avec le monde pour tous les chrétiens à travers les siècles qui ont voulu s'opposer au pouvoir, qui ne reconnaissaient pas l'idéologie, même l'amour, je dirais, de Jésus-Christ. Et donc, il est interdit d'aller à contre-courant. Nous avons lu tout à l'heure dans le premier passage, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Le monde est comme une rivière qui coule dans une seule direction, celle qui vise à faire taire le nom de Jésus, à réduire la foi au seul domaine privé, là où ça ne gêne personne, là où ça ne peut pas faire de disciples, a priori. Surtout ne pas déranger, surtout ne pas se convertir, surtout ne pas enseigner la vérité au monde. Alors comment réagissent les disciples? Et comment cet exemple de réaction peut également être le nôtre aujourd'hui? Ils disent, jugez s'il est juste, devant Dieu, de vous obéir à vous, les hommes, plutôt qu'à Dieu. Nous ne pouvons pas ne pas parler de Jésus, de tout ce que nous avons vu, de tout ce qu'il a fait, de tout ce que nous avons entendu de sa part. C'est pas possible. Et en disant cela, les disciples déclarent que leur vie doit témoigner que Dieu est leur priorité, tout en respectant la loi de leur pays, sauf quand elle contredit la loi de Dieu. C'est aussi ce que nous devons faire. Et puis, ils témoignent aussi qu'ils sont intègres dans la vérité, pour parler de ce qu'ils ont vécu, et qu'ils sont pleinement dédiés à Dieu. Ils vivent leur vie pour lui. Et la persécution, et ça on n'en est pas toujours conscient, au lieu d'être une entrave à l'évangile, permet au contraire que cet évangile se répande, comme cela a été le cas lors de la première persécution, dont l'apôtre Paul était partie prenante d'ailleurs. Dans les mois, dans les années qui ont suivi aussi le discours de Pierre dans Acte 2, et là, la persécution était telle que les gens étaient obligés de quitter leur maison, d'aller se réfugier ailleurs, se répandre. Mais en même temps qu'ils allaient, ils répandaient la bonne nouvelle. Donc, l'effet a été inverse que ce que le pouvoir attendait. Nous avons vu la Chine, l'Iran, maintenant, voyons l'Algérie. Amarouche et Sadaoui forment un couple. Ils sont chrétiens et ils sont, comme la plupart des chrétiens là-bas, d'arrière-plan musulmans. Tous deux viennent d'un village de Kabylie, une région montagneuse où l'Église connaît la croissance la plus rapide parmi la population berbère. Bien entendu, leur changement de religion leur a valu quelques difficultés. Et ils sont les seuls chrétiens de leur famille.
Oui, Amarouche. Donc d'abord, avant de vous dire son témoignage, j'avais vraiment à cœur de vous dire que si j'ai voulu participer à l'église de persécution, c'est parce que moi-même j'ai été persécutée ici en France par des musulmans. Et donc lire ces témoignages, ça me touche vraiment. Et je continue à prier pour mes frères et sœurs musulmans, pour que Dieu soit la veille à eux. Donc cet homme, donc, quand il va à son travail, il a peur de la persécution. La pression est pratiquement tout le temps. Donc il travaille dans la police et le matin, il dit qu'il a toujours peur en fait. Et il dit franchement qu'il est chrétien. Mais je fais bien mon travail. Et quand j'ai lu ça, je me suis... Après, je vous raconterai, après, quand je dirai mon témoignage. Mais quand j'ai lu ça, je me suis vraiment vue, moi, quand j'habitais à Givors. Et quand j'ai arrêté de travailler, je sortais plus. Et j'étais obligée de quitter cette ville pour me cacher, pour qu'on puisse vivre notre foi tranquillement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis à Villefontaine. Et que, voilà. Donc ça m'a vraiment beaucoup touchée. Parce que c'est pas seulement dans les pays étrangers, ça existe aussi en France. Merci.
Et donc, aujourd'hui, ce couple, donc Amarouche et Sadaoui, sont responsables de jeunesse, responsables de jeunesse dans leur village, c'est-à-dire sont ouvertement chrétiens. Et subissent aussi ouvertement la persécution. Et on y compte pourtant 60 jeunes chrétiens entre 16 et 30 ans. Alors, ils espèrent que l'Église gagnera en maturité dans les années à venir, sans être sûr, bien sûr, de l'avenir. Et ils ont cette vision que beaucoup d'hommes et de femmes serviront Dieu, non seulement dans leur village, mais lorsque ces jeunes partiront un jour peut-être là où ils iront, pourront également parler de Dieu, parler du Christ et oser faire ce que d'autres n'osent pas. Et donc, il y avait une suite du témoignage. Je ne sais pas si Fatima, tu veux la lire, la suite.
Les jeunes de mon église sont très actifs. Je me suis convertie la même année que 4 d'entre eux. Maintenant, nous sommes les 5 engagés de la communauté. Nous avons pour vision d'atteindre 30 villages de notre région et d'implanter une église dans chacun d'eux. Les Kabyles ont soif de l'évangile. Ils constatent que la foi musulmane mène à une impasse. Ils voient le témoignage que nous, petite minorité, nous rendons. Dieu est à l'œuvre. Nous voulons enseigner quand même comme amener les gens à devenir de vrais disciples qui tiennent bon dans leur foi. Amen.
Il faut beaucoup de foi, en fait, pour proclamer Jésus dans des pays où la persécution est omniprésente. Si on n'a pas cette foi, c'est pas possible, on va pas le faire. Et cette foi doit s'accompagner aussi d'un certain discernement, de savoir qu'un jour ou l'autre, il y a des risques, et que les risques risquent de mener à des conséquences plus que fâcheuses, non seulement pour nous, mais également pour notre famille, et puis pour ceux aussi que nous aimons, au-delà de notre famille. C'est un choix. Et là, on a vu l'Iran, on a vu la Chine, on a vu l'Algérie, mais il y en a d'autres pays, bien entendu. Donc, en Corée du Nord, vous savez qu'il y a des camps de travail. En Afghanistan, le simple fait de savoir qu'on est chrétien, c'est la peine de mort à très courte échéance. La Somalie, c'est la même chose. Et posons-nous quelques questions. Nous, ici, est-ce que notre foi chrétienne est visible au travers de ma vie à chacun et de la vie de notre Église ? Dans notre quartier, dans notre ville, quel risque courons-nous à parler de notre foi ? Et comment nous pouvons, en attendant, parce que nous avons cette liberté, prier et agir envers nos frères et nos sœurs persécutés. Et pour ça, il faut essayer de se mettre à leur place, pour mieux les comprendre. Et ces témoignages, cette vidéo, c'est un moyen de justement de pouvoir témoigner lorsqu'on a l'occasion de témoigner, de se rappeler de ces personnes qui souffrent et de se dire, bon, si eux peuvent le faire, moi aussi. Michel Varton, donc, qui était directeur pendant plus de 30 ans de l'association Porte Verte pour les chrétiens persécutés, qui est maintenant en retraite depuis très peu de temps, nous dit ceci. L'Église est appelée à aller à contre-courant, où qu'elle soit. Le monde et le diable sont comme une force immuable qui voudrait nous emporter vers le bas. Mais Jésus nous appelle à aller dans l'autre sens, à monter vers la source, à le suivre. Rappelons-nous qu'une partie de l'Église se trouve aujourd'hui prise dans les tourbillons, au milieu des rapides. Et aller à contre-courant, c'est ramer de toutes ses forces, justement contre quelque chose qui ne va pas dans le sens où on voudrait qu'elle aille. Et ça demande de l'énergie. Et cette énergie, elle se trouve dans notre foi. Et si l'on continue sur la logique de ramer à contre-courant, parfois le courant est si fort que le bateau est renversé. Parfois l'eau déborde et la coque se remplit. Alors, cette coque, ce bateau, c'est l'Église. Notre Église. Et elle a besoin d'être soutenue par nos prières, par notre aide. Et donc, nous sommes dans le même bateau. Et c'est bien de se mettre comme les apôtres au moment de la tempête sur l'eau, avant que Jésus l'apaise, ils étaient dans le même bateau. Et là, ils voyaient les forces contraires, ils voyaient les vents, ils voyaient les dangers, ils voyaient aussi les roches peut-être. Et ils voyaient aussi que leur propre force ne suffisait pas pour lutter contre les éléments. Donc avec tout le souvenir de ces louanges, de ces témoignages et de ces expériences de vie que nous pouvons avoir eues l'un et l'autre, Fatima également, prenons un temps de prière libre.